Je vais lire dans la parole vivante. Quand l'Éternel a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment, mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit, « Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. » Amen. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend la parole sûre. Ainsi, on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir le bien promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. Dieu a voulu clairement montrer qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. La promesse est un serment, et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tous laissé pour saisir l'espérance qui est offerte. Amen. Amen. Déposez votre Bible, restez debout. La parole que je vais partager avec vous, c'est juste ce qui est tiré du verset 17. Mon Dieu ne change pas d'avis. Le Dieu devant qui tu te tiens ce matin n'a pas changé d'avis. Malgré ce que tu vis, malgré la tempête, malgré le vent, malgré que ta vie coule, mais Dieu dit ce matin qu'il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Je voudrais juste vous inviter à saluer Dieu avec deux mains d'acclamation. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Loué soit le nom de notre Dieu. Le Dieu vrai, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui dit un mot et il accomplit. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Ce qu'il a dit est vrai. Dieu n'a pas changé d'avis. Veuillez vous asseoir. Nous voici au début du deuxième semestre de l'année 2012. Chacun de nous a traversé l'année 2012 avec une promesse. Probablement avec un mot d'ordre. Tu es entré même dans ce pays avec une promesse et un mot d'ordre de Dieu. La phrase qui fera l'objet de ce message au verset 17 affirme qu'il est impossible que Dieu mente. Que Dieu tient à sa parole. La parole est Dieu lui-même. Les témoins de Dieu de tous les âges expérimentent cette vérité. Et Nombre chapitre 23, verset 19, je vous lis dans la parole vivante, dit « Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. » Quand il dit quelque chose, il le réalise, et quand il fait une promesse, il la tient. Amen. Permettez-moi de relire, probablement. Je lis trop vite. Je vais articuler lentement. Je lis dans Parole vivante, Nombre 23, verset 19, Il dit, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Et quand il fait une promesse, il la tient. Dieu tient promesse. Le temps peut couler, mais ce que Dieu a dit, il le fait à coup sûr. Le Seigneur me donne une pensée qui va faire l'objet d'une série de messages que je vais développer tous les mois de juillet. Quand je reviens d'Israël, je reprends la chair. Pendant 2 semaines, je vais apporter une série de messages que mon Dieu ne change pas d'avis. Abraham a expérimenté cette vérité. Le texte que nous lisons, c'est le témoignage concernant Abraham. Abraham a reçu une promesse de Dieu alors qu'il était dans son pays de Babylone, cette région de Bagdad, de Mésopotamie. Il a entendu la voix de Dieu lui dire, « Sors de ton pays, quitte le monde comme il te l'a dit, je te bénirai, je te donnerai un fils, je te donnerai un nom dont toute la terre entendra. » Ayant la promesse de Dieu, Abraham s'engage dans le voyage, il arrive dans la région d'Aram, il s'établit là. Dieu lui dit, ce n'est pas Aram, je t'ai dit d'aller en Canaan. À cet endroit, puisqu'il ne comprenait pas, Dieu va prendre son père. Parfois, Dieu utilise des méthodes dures pour nous réveiller. Abraham se réveille, Dieu lui dit, déménage. Abraham déménage. Il arrive dans le pays, il dit, j'ai des promesses de Dieu, mais il trouve la famine. Il dit, mais Dieu m'a promis que je te bénis. Dieu lui dit, tu as des promesses. Ne regarde pas la réalité que tu vis, mais tu as des promesses. Ne regarde pas les réalités que tu vis, mais regarde aux promesses. Abraham va fuir en Égypte. En Égypte, on va prendre sa femme. Il voit Sarah s'en aller au palais royal. Il dit, Seigneur, c'est tout ce que tu m'as promis. Dieu lui dit, la promesse va devant toi. Ne regarde pas la réalité de ta déception, mais tu as des promesses. La réalité que tu vis n'a pas annulé ta promesse. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. La réalité que tu vis n'a pas annulé ta promesse. La réalité que tu vis n'a pas annulé la promesse sur ta vie. Abraham rentre dans le pays des promesses. Il reste dans le pays des promesses. Il dit à Dieu, tu m'as donné la promesse, ça fait 25 ans. Je ne vois pas, ça fait 10 ans, je ne vois pas d'enfant. Dieu dit, tu as la promesse. Il dit, ça fait 12 ans, j'ai vieilli. Et Abraham fait même un projet pour céder, un testament pour céder toute sa fortune, tout son héritage à Eliezer de Damas. Dieu lui dit, ne le fais pas surtout. Attends la promesse, elle arrivera au coup sûr. Il dit, Seigneur, tu ne vois pas, j'ai vieilli. Dieu lui dit, ma promesse n'a pas vieilli. La promesse te précède. Sa femme, Sarah, va faire un projet. Il dit, écoutez, à l'âge que j'arrive, personne, une femme à mon âge ne peut pas avoir d'enfant. Je crois que cette promesse, elle va se réaliser avec Agar. Va avec Agar. L'Éternel le regarde, il dit, j'espère qu'il ne va pas faire ça. J'espère qu'il ne va pas faire ça. Je ne veux pas qu'il ne va pas faire une bêtise. Abraham, tu as la promesse. Il dit, mais Seigneur, je pense que c'est avec cette femme. Il dit, non, Isaac naîtra. Le fils de la promesse s'appelle Isaac. Ne fais pas une bêtise. Mais Abraham va faire une bêtise pareille. Même cette bêtise n'a pas annulé la promesse. Même cette bêtise n'a pas annulé la promesse de Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis pour ta guérison. Il dit que je te guérirai. Dieu n'a pas changé d'avis Toi qui es tombé, il a dit, je te restaurerai, tu seras restauré. Amen. Dieu n'a pas changé d'avis. Toi qui es au pied du mur, Dieu dit, j'ouvre une fenêtre devant toi. Tu as une promesse et Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis malgré le désert. Il a dit, j'ouvrirai les cieux et il y aura les églises des cieux sur ta vie. Je te bénirai à coup sûr. Dieu n'a pas changé d'avis. J'ai fait un rêve cette nuit qui m'a marqué. Et le sait, je le lui ai dit le matin. Dans mon rêve, je voyais dans ma cour des collines de neige qui couvrait ma maison, qui couvrait mon terrain. Chez tous mes voisins, sec. Je dis, pourquoi il y a la neige chez moi? J'appelle mes enfants qui étaient venus pour déblayer la neige. Mais je dis, mais chez mes voisins, il n'y a pas de neige. Tu es un fils d'exception. Amen. Tu es une fille d'exception. Il y a la promesse de Dieu sur ta vie. La neige va couvrir ton sol et tes voisins n'auront pas de neige parce qu'il y a la promesse de Dieu sur ta vie. La promesse, qu'est-ce que ça signifie? Un mot qui traverse toute la Bible d'ailleurs. La promesse est un engagement. Quelqu'un dit engagement. Engagement de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui n'a pas d'origine, le Dieu qui n'a pas de successeur, le Dieu qui est alpha et oméga, le Dieu qui règne sur l'univers, le Dieu de l'univers, il te connaît. Et ce Dieu-là, sur son trône, il prend un engagement. Il écrit une ordonnance. Il prend une décision de quelque chose qu'il doit accomplir sur ta vie. Amen. La promesse annonce le plan de Dieu sur ta vie. Ce plan n'a rien des intentions de tes parents. Les parents ont des ambitions. Ils veulent avoir un enfant médecin. Ils veulent avoir un enfant ingénieur, un enfant journaliste, ils veulent avoir un enfant prêtre, un enfant pasteur, mais cela ne se réalise presque pas, sauf dans certains cas. Mais je parle de Dieu qui gouverne le monde visible et le monde invisible, de Dieu devant qui nous nous tenons ce matin, de Dieu qui dit à Joseph, je ferai de toi un roi. Mais il n'est pas né d'une lignée royale. La promesse de Dieu est un non-sens. Elle n'a rien de commun de ce que ton père a eu, de ce que ta mère a eu. Il vient trouver un petit gamin chez lui endormi, il le réveille, le petit gamin Joseph, il va voir son père, patriarche, un homme d'onction, il dit à son père, voici ce que j'ai rêvé. Je voyais que il y avait 12 bottes d'herbe et un seul s'élevait, c'est le mien. Et je voyais ma mère et mon père tous à genoux à mes pieds. Son père dit, oh, pourquoi il ne me l'a pas dit de côté cet enfant? Pourquoi il va livrer une histoire pareille? Il y a des choses que Dieu te dit que tu ne répètes pas. Ça va créer un problème sur la terre. La promesse, elle touche au domaine spirituel. La promesse touche au domaine matrimonial. La promesse touche au domaine professionnel. La promesse touche au domaine des affaires. La promesse touche au domaine des combats. La promesse touche au domaine matériel. Elle touche au domaine de santé. La promesse s'inscrit dans la relation de l'homme avec Dieu. La promesse, c'est le regard croisé. Quelqu'un dit regard croisé. Il y a 4 regards croisés sur ta vie. Il y a ton regard à toi. Je regarde, je n'ai pas de voiture. Je regarde, je n'ai pas d'emploi. Mon regard confesse les réalités que je vis. Le regard du diable vient croiser ton regard et dit, à coup sûr, tu t'es trompé, ta vie est brisée, tu n'as pas d'avenir. Troisième regard croisé, c'est le regard de ce qui t'entoure. Il n'a pas d'avenir. Mais il y a un regard qui décide de ta destinée, c'est le regard de Dieu. Le regard de Dieu dit, voici un homme de promesses, voici un homme mis à part, voici un homme qui marche vers sa destinée, voici un fils d'onction qui marche et je le bénis. Sur ta vie, il y a des regards croisés. La promesse ou les promesses de Dieu trouvent les fondements dans l'alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans alliance. La relation avec Dieu s'exprime ou s'articule, si je dois utiliser un mot approprié. La relation avec Dieu s'articule à travers l'alliance. Regardez tout au long de l'histoire. Il y a, Dieu vient vers Noé, il conclut une alliance avec lui. Il vient vers Abraham, il lui dit, je ne peux rien traiter avec toi sans alliance. Il vient vers Israël, il traite avec Israël à travers l'alliance. En dehors d'alliance, il n'y a pas de promesse. J'avais écrit sur mes notes, ils diront Amen. Amen. J'avais écrit sur mes notes que les membres diront Amen. Amen. En dehors de l'alliance, il n'y a pas de promesse, car Dieu se révèle et se manifeste à travers l'alliance. Les promesses, c'est une affaire d'alliance. Les promesses font partie de l'alliance de Dieu. Et je vais terminer là. La promesse, elle pointe la destinée de Dieu pour ta vie. La promesse pointe où Dieu veut te conduire. Bien que le chemin que Dieu emprunte est parfois tortueux, bien que le chemin emprunte est parfois un chemin de tempête, et parfois le chemin où il y a des loups, où il y a des lions, le chemin où il y a des branches d'arbres, où il y a des obstacles, mais lui qui connaît la dose de ta foi, la mesure de ta foi, il emprunte ce chemin avec toi et il t'équipe de manière que tu arrives dans sa destinée. Je vais faire un progrès dans ces éléments. Il y a deux catégories de promesses dans les Écritures. Il y a des promesses à caractère individuel. Quelqu'un peut dire individuel. Ce sont des promesses que Dieu adresse à des individus de manière pointue. Comme il le dit à Abraham, il dit, je te bénirai, toi Abraham. Mais la promesse même individuelle, elle a des incidences sur la communauté. Faites partie d'un homme que Dieu bénit. Je vois la neige sur ma cour, mais mes voisins n'ont pas de neige. Mais quand mes enfants enlèvent la neige, ils jettent aussi chez les voisins. Amen. Regardez Jacob. Il arrive dans la maison de Laban. Dieu a béni Jacob et Laban va le reconnaître. Il dit, je pressens que je suis béni à cause de toi. Joseph dans la maison de Potiphar, un homme béni. Potiphar, ses affaires progressent parce qu'il est en alliance avec quelqu'un qui avance. Il faut toujours savoir avec qui tu t'associes. Si tous tes amis sont de ta taille. Je ne sais même pas si ça vous fait rire. Dans ma session dernière, j'avais une étudiante, une Française toute petite comme ça. Alors, les cours maintenant dans des universités, c'est toujours avec des PowerPoint et des choses un peu compliquées. Alors, ses collègues se jouaient toujours d'elle pour dire, écoute, le professeur est arrivé, est-ce que tu peux allumer le projecteur? allumer les projecteurs. Les projecteurs étaient plus hauts de 2 mètres qu'elle. Alors, il regarde à gauche, il dit, mais pourquoi vous me traitez comme ça à toutes les séances? J'ai dit, mais imaginez-vous que la classe était formée que des gens de sa taille. C'est pourquoi Dieu me donne des doigts d'une main, mais de diverses tailles. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Dieu dit à Josué, je t'appelle à répandre le ministère de Moïse, mon serviteur, que nul ne tiendra devant toi. Mais dans l'appel que je t'adresse, Israël va bénéficier. Dieu dit à Josué au chapitre 3, verset 5, je commence à t'élever. C'est la bénédiction de Josué. C'est la promesse de Josué. Je commence à t'élever. Et tout au long des Écritures, il y a des promesses, des personnes, des personnes. Mais il y a en même temps des promesses de la communauté. Promesses de l'ensemble. C'est la promesse que Dieu donne à Israël. C'est la promesse que Dieu va donner à la maison de David. Quand David doit construire l'arche et construire le temple, Dieu lui dit, je bénirai ta famille à toi. Il y a des familles sur lesquelles Dieu a posé des promesses et dit à tes enfants, je le vous disais hier, je parle avec mon fils aîné, avant qu'il parte de chez moi. Mon fils, je ne sais pas le jour ou la mort, mais je sais que je vivrai longtemps. Mais écoute, je suis dans une phase d'écrire. Si un jour je ne suis pas là, sécurisez mes publications. Amen. Dites à vos enfants des promesses sur votre vie, des promesses que Dieu a faites à votre famille. J'ai raconté une histoire, je vais la raconter en différents morceaux, qui va m'aider beaucoup dans ces partages avec vous. Le 21 septembre 1991, je viens me promener dans ce pays. Je vois l'aéroport de Mirabel. J'entends une voix claire de Dieu. Je lisais d'abord les Écritures pendant le vol. Le mercredi, nous allons enseigner comment Dieu parle par la Bible. Je lisais les textes dans... C'est écrit encore dans ma Bible, vous trouverez l'écriture de l'époque. Dieu dit, la terre est à moi, je la donne à qui je veux. Au bout de ces textes, j'entends la voix de Dieu résonner dans mon esprit. La terre que tu vois, je te la donne. Tu habiteras dans ce pays, je te donnerai un grand ministère. Mais cette parole, à premier coup, elle n'avait aucun sens pour moi. Je n'ai jamais rêvé venir au Canada. Je suis entré dans le pays avec une promesse en main. Une année plus tard, je suis dans le pays avec ma famille. J'habite dans un appartement qui n'avait pas de rideaux. Il n'y avait pas de rideaux. Hervé a vu ma maison. Il est venu plusieurs fois à la maison. Les portes ne se fermaient pas. Nous avons la promesse, elle a piqué une prise. Elle dit, je ne peux pas vivre ici. Mais nous avons quoi? La promesse. Mais nous dormons dans un appartement sans rideau, un appartement sans rideau, mais nous avons la promesse. Je peux vous raconter dans ce pays ce que j'ai vécu. Je n'avais pas un visa pour travailler. J'avais un visa missionnaire, mais j'avais la promesse. Dans ce pays, je ne pouvais pas me faire soigner, je n'avais pas la carte solaire, mais j'avais la promesse. Dans ce pays, je n'avais pas de voiture, mais j'avais la promesse. Dans ce pays, je n'avais rien à manger, parce que l'argent était fini. Mais j'avais quoi? La promesse. La réalité de ma vie n'a pas annulé la promesse de Dieu. Je reviendrai sur ça plus tard. Nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux, le texte clair, il dit, Dieu ne ment pas. Il y a 2 versets dans la Bible. Il y a le verset des Nombres au chapitre 23, verset 19, et il y a le verset 17 du chapitre 6 d'Hébreux, où il est dit clairement que Dieu ne ment pas. Je voudrais m'attarder à ce niveau pour relever trois domaines dont Dieu ne ment pas. Le premier domaine dont Dieu ne ment pas, c'est juste sa parole. Ce texte ici s'appelle la parole de Dieu. Dieu a un caractère indiqué dans l'Épître aux Hébreux. Il dit que Dieu est immuable dans votre Bible. C'est-à-dire, l'immuabilité de Dieu signifie la constance, que Dieu n'évolue pas en hauteur, Dieu n'évolue pas en profondeur, Dieu n'évolue pas à droite, Dieu n'évolue pas à gauche, Dieu ne prend pas la taille. Dieu est immuable, veut dire que Dieu ne change pas. Je voudrais que vous compreniez, le mercredi dernier, j'ai enseigné un thème assez particulier, que la Bible dit « Dieu est vivant ». Qu'est-ce que ça signifie? Prenez les gens qui étaient à l'étude biblique et les mercredis, je vais parler sur la véracité et la révélation de Dieu à travers les Écritures. Dieu n'évolue pas. Moi, j'évolue. Je vous disais tout à l'heure, je suis entré dans le pays, j'ai commencé mes 40 ans. Je n'ai jamais oublié la voix de Randy. Là, c'est pas 7 ans, on passe une vidéo. Randy voit mon visage, il dit, il était jeune, il a crié fort en plein culte. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui de moi. J'ai évolué en âge parce que j'ai commencé mes 60 ans. J'ai béni le Seigneur. Mais j'ai évolué en statut social. J'étais papa avec cet enfant. Aujourd'hui, je suis grand-papa. J'arrive, j'évolue. Ma vie a changé. Quand je prends les habits que j'avais à cette époque, quand je suis entré, mon bras ne peut même pas entrer. J'évolue. Mais je voudrais vous rassurer que Dieu n'évolue pas.
Amen.
Dieu est immuable. Quelqu'un dit immuable. Et je vais ajouter, c'est que Dieu a émis des ordonnances. La Bible, on appelle ce livre ici les Saintes Écritures. Mais la Bible, dans un autre langage, on l'appelle les ordonnances de Dieu. Donc, Dieu, quand il a émis les ordonnances, il ne modifie pas. Nous avons dans nos mains la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'évolue pas à cause des circonstances, à cause des événements. La volonté de Dieu, elle est la même en Australie, elle est la même en Asie, elle est la même en Afrique, elle est la même en Amérique, elle est la même dans ma famille, elle est la même pour le roi de ce monde. Voici ce que Dieu ne change pas. Dieu ne négocie pas les Écritures. Même quand tu tombes dans le péché, c'est que tu as tenu la parole de Dieu. Mais elle est la même pour les prédicateurs, elle est la même pour les auditeurs, elle est la même pour le roi, elle est la même pour les cuisiniers, elle est la même partout, tous. Il y a quelque chose que Dieu ne bouge pas, c'est sa parole. Deuxième chose que Dieu ne change pas, vous les chantez bien, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. La deuxième chose que Dieu ne change jamais, c'est que Dieu ne change pas ses promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. La promesse de Dieu ne vieillit pas. La promesse de Dieu ne périt jamais. Votre corps peut pourrir, mais la promesse de Dieu peut traverser des générations. La promesse de Dieu peut toucher tes enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. La promesse de Dieu est oui et amen. La promesse donne l'impression d'être endormi. La promesse donne l'impression d'une parole dans l'air. Mais celui qui a dit la parole, il sait que la parole travaille. Elle travaille
tu ne la vois pas, mais elle travaille, elle opère dans le domaine des mariages, dans le domaine des maternités, dans le domaine d'emploi, dans le domaine d'élévation, dans le domaine des bénédictions. La parole de Dieu, la promesse, c'est la parole, elle opère. Tu ne la vois pas, mais elle travaille.
Ce pays-ci, j'ai pleuré. Nous avons fait des projets de rentrée. Mais les enfants, à nous qui étaient des jeunes à l'époque, nous disent, « Papa, nous avons la promesse. La promesse de Dieu est sur ce pays, mais non la Belgique. Tu aimes la Belgique parce qu'il y a tes amis. Mais nous, c'est ici. Mais j'ai des fils. Roger n'est plus allé à l'école parce que je ne pouvais pas payer ses études. Annie ne peut pas aller. Imaginez un père de famille. Vous avez des enfants à la maison qui ne peuvent pas aller parce que tu n'es pas payé. Quand je me plains que je ne peux pas, il y a une voix qui sort du trône de Dieu, tu y as la promesse. Nous avons une voiture Hyundai, pour la démarrer, il faut intercéder. Il faut lui imposer des mains pour qu'elle démarre. Et parfois je m'écris, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Mais il y a une voix qui sort du trône de Dieu, tu y as la promesse. Tu y as la promesse. Oh, tu y as la promesse. Tu y as la promesse. La promesse est sur ta vie. Elle est sur ta vie. C'est beau de voir les buildings. C'est beau de voir les bureaux. De dire voici. Mais le parcours pour arriver là. Quelqu'un m'intéresse. M'envoie vers l'armée du salut. Je trouve que ils sont intéressés à moi. Ils ont un collège biblique. J'ai mon dossier à main. J'ai ma thèse à main. Je dis, oh, c'est bon, nous avons besoin d'un Africain ici. Et nous avons besoin d'une église africaine. Vous avez 45 000 dollars. Vous avez une maison. Vous avez une voiture. Je rentre à la maison avec un sujet de joie. Ça marche. Nous prions les soirs. Vous avez la promesse. Pas dans cette direction, attendez. J'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants envoyés à l'école. Vous avez quoi? La promesse. Je vais chez les Mennonites. Ils ont besoin d'un pasteur à leur église. J'ai aussi une origine Mennonite. Je me présente, je cite les noms des missionnaires que j'ai connus. On se parle. Je sors de leur bureau. La présence de Dieu me couvre. Tu vas faire une bêtise. Ma promesse n'est pas ici. Je vais revenir sur le témoignage. Troisième chose, je disais que la promesse de Dieu demeure malgré ce que tu vis, malgré ce que tu sens, malgré tes larmes, malgré tes douleurs, malgré la peine, malgré la misère, malgré la faillite, malgré les divorces, malgré la déception amoureuse dans ta vie. La promesse est de Dieu. La promesse est de Dieu. Troisième chose, que Dieu ne négocie pas et que Dieu ne ment pas, ne bouge pas. Dieu ne ment pas et ne bouge pas, ne négocie pas le plan qu'il a pour ta vie. Le texte de Psaume, chapitre 39, au verset 14 et suivant, dit que quand je n'étais pas né, je n'étais que fœtus dans le sein de ma mère, tu me façonnais, tu me fabriquais, je suis une créature merveilleuse. Ce matin, je ne voudrais pas demander si tu es. Tu ne connais pas ton père, quel est le nom de ton père, quel est le nom de ta famille. Qu'importe les circonstances que tu es venu dans le monde, qu'importe la famille où tu es né, mais tu es né dans les plans de Dieu. Amen. Dieu dit, et le psalmiste va nous dire que l'histoire de ma vie était écrite de la main de Dieu. C'est que avant que tu sois né, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu de l'histoire, le Dieu de la création, les maîtres du soleil, les maîtres de la lune, les sages éternels, a voulu que tu sois né. Ta mère a tenté même de t'avorter plusieurs fois. Parfois, tu entends dans ta famille pour te dire, quel est ton père? Tu es l'enfant d'une femme? Tu es de qui ici? Nous ne connaissons pas tes origines. Tu as été abandonné de ton père. Ton père t'a renié. Oui, le père m'a renié, mais Dieu a un plan pour ma vie. Mais plus loin, Israël est dans la captivité. Israël dit, notre destinée est cachée. Dieu nous a oubliés. Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, j'ai un plan, le plan de bonheur. Mais Israël est en captivité. Et tu me diras ce matin, mon portefeuille est en captivité, pasteur, tu ne comprends pas. Oui, je te comprends, mon frère. Mon mariage est en captivité. Mes enfants sont en captivité. Mais Dieu a un plan. Et le plan de Dieu ne change jamais. Et le plan de Dieu se réalisera à coup sûr. Le plan de Dieu se réalisera à coup sûr. Je voudrais dire trois raisons pour lesquelles Dieu ne ment pas. Parce que j'ai affirmé que Dieu ne ment pas et je voudrais revenir sur ces vérités-là. La première vérité que Dieu ne ment pas, c'est que lorsque Dieu fait serment dans les textes, promesse, il y a un deuxième élément qui vient. Dieu fait promesse avec serment. Tu as deux choses en main. Tu as la promesse, tu as le serment. Tu as la promesse, tu as le serment. Tu as la promesse, tu as le serment. Je vais entendre, j'ai la promesse. J'ai le serment. J'ai la promesse. J'ai le serment. Il y a deux choses que tu as en main. Des choses que Dieu ne peut pas bouger. Dieu s'est lié à sa parole qu'il t'a donnée. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans une réunion avec une salle pleine de l'hôtel Tiama. Nous avons devant nous tous les responsables d'église en Côte d'Ivoire. Marc, pasteur Marc, a pris la parole. Il dit à l'auditoire, il présente Bettina, présidente internationale de Old Challenge. Et puis, il se tourne et dit, je voudrais vous présenter Dr Kabuya. Il est le président d'un mouvement d'église. Vous savez, je ne le réalisais pas, ça tique dans mon esprit. Je dis, mais en effet, il a raison. Je suis en Côte d'Ivoire. Il est un des professeurs dont la rigueur scientifique est reconnue chez nous. J'ai la promesse, j'ai le serment. Pour arriver là, le chemin, quelqu'un dit le chemin. Je vous épargne des détails. Ce pays, je suis comme un génie. Je connais ce que c'est que poser des questions à Dieu. Jusqu'à quand? Mais 20 ans plus tard, je suis une des autorités spirituelles respectées dans le pays. Ce pays-ci. 20 ans plus tard, je suis une autorité écoutée dans la matière de foi dans ce pays. Plus que vous le savez. Je connais ce pays de la Sarre, Abitibi, Saguenay-Saint-Jean. Il n'y a pas une région, une grande église à laquelle Dieu n'a pas utilisé ma bouche pour parler. Juste par sa grâce. J'ai la promesse, j'ai le serment. J'ai la promesse, j'ai le serment. Vous venez dans les milieux académiques. Je suis une autorité respectée. Par sa grâce, j'ai la promesse, j'ai le serment. J'ai la promesse, j'ai le serment. Frères et sœurs, je disais qu'il y a deux choses. La promesse est une déclaration solennelle, une déclaration dont Dieu ne regarde pas tes origines, Dieu ne regarde pas ta famille, Dieu ne regarde pas
ton pouvoir d'achat. Il ne regarde pas ta condition. Il ne regarde pas ce que tu as fait pour lui. La promesse est une grâce, est une faveur de ce que Dieu est et de ce qu'il fait faire pour toi. La promesse, c'est la volonté de ce que Dieu veut accomplir. J'expliquais tout à l'heure. Il vient trouver un immigrant avec sa famille. Il regarde son petit garçon Joseph. Il dit, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Mais qu'a-t-il fait? Il vient trouver Samuel et David dans la plairie. Les pauvres, il arrive chez son père. Papa, tu m'as appelé. Papa, tu m'as appelé. Et tu m'as appelé. Il dit, non, c'est le juge. Il a besoin de toi. Il les regarde, il dit, eh oui, voici un homme que Dieu a choisi. Dieu va faire de lui un roi. Je dis, quoi? Il y a un roi en Israël. Nous ne sommes pas de la lignée royale. Il dit, le roi qui établit des lignées, il est le roi qui fait des exceptions quand il fait des promesses. La promesse de Dieu est une exception. Une exception à la règle. Chez tes voisins, il y a le désert, mais chez toi, il y a la neige. Amen. Une exception dont tu ne comprends pas ce que Dieu entreprend. Tu es un fils d'exception. Tu es une fille d'exception. Ne dis pas dans notre département. Le département est formé de monsieur tout le monde, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un homme spécial de Dieu. Dieu est lié par serment. Chaque promesse de Dieu, est à chaque, c'est une capsule dans laquelle je vois parfois des capsules de pénicilline et d'ampicilline. Ça, je connais. Quand vous prenez les capsules, il y a deux parties. Vous pouvez avoir une partie rouge, une partie blanche. Les deux en est, un seul capsule. La promesse de Dieu est une capsule. Nous avons beaucoup parlé de la promesse, mais nous ne parlons pas du serment que Dieu m'a donné. Je vais vous donner une démonstration de cela dans les Écritures. Dans les livres de la Genèse, Dieu vient, il entend Abraham soupirer. Abraham dit, oh, moi j'ai vieilli sans enfant, mais je te suis partout. Et j'ai dit, ah, pourquoi tu dis une parole qui me touche comme ça, Abraham? Pourquoi? N'étais-je pas dit qui je suis? Je suis El Shaddai. Alors, Abraham, Dieu dit à Abraham, va, prenez-moi des oiseaux purs, des tourterelles, des pigeons, coupe-les en deux parties. Il coupe, il met une partie, et puis il s'assoit. Il dit, Dieu lui dit, je viendrai. Mais nous sommes le matin vers 9h au Moyen-Orient, le soleil se lève tôt. Midi, il n'y a rien. 13h, il n'y a rien. 14h, il n'y a rien. 15h, le pépère commence à somnoler. Il entend comme un coup de tonnerre. Boum! Le feu est venu de nulle part, sans combustible. Traverser les animaux. Dieu dit ceci. Voici ce que signifie le serment. Si je n'honore pas la parole, que je dois traiter comme ces animaux. C'est que Dieu dit, il me faut la mort si je n'honore pas ce que je t'ai dit. C'est cela ce que veut dire serment. Dieu, il ne ment pas parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il promet et il a la capacité et le pouvoir d'accomplir. Dieu a la capacité et le pouvoir d'accomplir. Je venais de vous dire il y a 3 semaines que une maison d'édition en Allemagne, prends contact avec moi. Nous voulons publier tes prédications, nous intéressent. Nous voulons les publier gratuitement. Et nous voulons le mettre dans les grandes librairies mondiales. Et puis, il me dit, nous allons le mettre sur Amazon. Il y a quelqu'un qui connaît Amazon ici? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où se trouve le TDDX. Il dit, nous mettons là. Mais moi, je n'ai pas fait de démarche. Aucune démarche. Et ils font la pression sur moi. Vite, 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 vite. J'ai dit, je connais qui leur fait la pression. Je connais. Celui que je connais s'occupe d'eux. Je voudrais vous parler de... Quand nous parlons de la capacité de Dieu, nous parlons du pouvoir de Dieu. Que le Dieu qui fait la promesse, il a le pouvoir. Il a la puissance. Il a l'autorité. Il a tous les moyens à sa disposition pour conduire à l'accomplissement de ce qui te semble un non-sens, de ce qui te semble la folie, de ce qui te semble comme un océan devant toi. Dieu, je ne sais pas ce que Dieu représente pour toi. Parce que tout se joue à ce niveau-là. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Ésaïe, au chapitre 40, Israël est dans la captivité, dans la souffrance, dans la misère. Israël dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est la fin pour nous? Rien ne changera. Dieu répond à Israël, au verset 25, il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? À qui? Levez les yeux, regardez. Qui fait marcher le soleil, la lune? N'est-ce pas moi qui ai suspendu les étoiles, suspendu le soleil, suspendu la lune? À qui vous me comparez, moi? Quand vous entrez dans les lieux de prière, que votre image de Dieu change. Vous n'allez pas vers un homme. Quand vous allez vers le pasteur, il va dire, écoute, je n'ai pas le temps. Écoute, on a déjà prié, puis on verra. Mais quand vous allez vers Dieu, il dit, je suis encore disponible. Amen. J'ai encore l'oreille pour entendre. Amen. J'ai encore la main pour secourir. Amen. Frères et sœurs, la promesse, elle dépend de la grandeur, de la majesté, de la puissance, de l'autorité, de la suprématie de Dieu. Amen. De Dieu qui, tout au long de l'histoire, il dit que mes œuvres sont grandes et admirables. Le Dieu qui a le moyen et la possibilité de vous surprendre. Je m'attends tout le temps à des surprises de Dieu. Je m'attends tout le temps à des surprises de Dieu. Quand je me débattais pour dire je ne peux pas nourrir la famille, j'ai frappé à telle institution théologique, je n'ai jamais fait une application, aucune fois. Ce sont des autorités des institutions qui me demandent. Dieu leur parle et bouge. Parce que j'ai quoi? La promesse et j'ai quoi? Les serments. J'ai la promesse, j'ai les serments de Dieu sur moi. Malgré le chemin de douleur, le chemin de peine, il débouche sur quelque chose de grand. Je disais que Dieu ne ment pas à cause du serment dont il ne peut pas se défaire. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas se défaire du serment. Puisqu'il ne peut pas se défaire du serment, il ne peut pas se défaire de la promesse. C'est que chaque jour, tu marches vers quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'incontrôlable. Et quand je te croise, je m'attends toujours à une nouvelle de ce que Dieu est en train d'accomplir. Je vais à ce niveau-là te dire que ta vie n'est pas finie. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ce que tu dois être. Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. La souffrance n'est pas la signature de Dieu sur ta vie. La misère n'est pas la signature de Dieu sur ta vie. Le chômage n'est pas la signature de Dieu sur ta vie. Le célibat n'est pas la promesse, la signature de Dieu sur ta vie. Oh, alléluia, l'Éternel est Dieu. Dieu ne ment pas parce qu'il s'appelle le fidèle. Le caractère de Dieu dit qu'il est le Dieu qui ne peut pas renier son nom.
si dans le parcours de beaucoup d'immigrants, il y a eu changement de nom. Dans le parcours d'immigrants, j'ai croisé un jeune homme. J'ai dit, comment ton nom? Il me dit, papa, je ne sais même plus. J'ai beaucoup changé mon nom à travers deux pays. Mais je connais quelqu'un qui ne change pas de nom. Je connais quelqu'un. Alléluia. Je connais quelqu'un. Il s'appelle le fidèle. Le Dieu fidèle. Fidèle dans la tempête. Fidèle dans les lieux de deuil. Fidèle dans la douleur. Fidèle dans les chagrins. Le Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il est fidèle. J'aime entrer dans la maison de Dieu et parfois lui dire, fidèle, bonjour. Fidèle, tu es là. Il connaît que je suis infidèle. Mais lui est fidèle. Je voudrais resserrer le texte pour t'indiquer les ennemis de la promesse. Le premier ennemi de la promesse s'appelle la pression. Tous ceux qui ont eu des promesses ont connu la pression. La pression liée aux circonstances de la vie, aux besoins de la vie, la pression liée à l'âge. Abraham le dit d'ailleurs à l'Éternel, tu ne vois pas que j'ai, tu me dis tout le temps j'ai la promesse, mais est-ce que tu connais mon âge? J'ai 100 ans moi, mais quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que tu as vu des filles se marier à 60 ans? Je me marie à 60 ans. Est-ce que les hommes cherchent des filles de 60 ans? Même des veufs, il n'y en a pas beaucoup. Ma femme a 90 ans. Quand est-ce que nous aurons un enfant, nous allons l'élever? La pression amène l'impatience. L'impatience amène à chercher des solutions qui ne sont pas de Dieu. Pas d'Ismaël. J'étais en voie de fabriquer des Ismaël, moi. Je vous ai raconté, je suis à l'armée du salut. Si Dieu ne nous avait pas arrêtés, j'aurais signé le contrat, cette œuvre ne serait pas là. Parce que j'avais la pression, le regard de la famille, en quoi tu nous as embarqués. Mais regarde ce que nous vivons. L'hiver arrive encore, regarde, on nous a donné des rideaux. Nous, on a vécu ici des gens qui nous donnaient. Vous n'avez pas de calcul à faire. Mais les années passent. On me fait rencontrer un homme, un pasteur, qui a eu des problèmes avec une jeune fille Cormier au centre-ville. On dit, il a un ministère comme toi. Allez les voir, vous allez faire un ministère ensemble. Mais moi, je ne fais rien. Je les rencontre. Je reviens dans la voiture, j'entends une voix claire de Dieu. Je ne t'ai pas appelé à ça. Nous voulons ouvrir des portes à nous. Vous savez, même pour un mariage, Dieu te veut dans les mariages comme adoratrice, mais non comme intercesseuse. Alléluia! Beaucoup de gens sont des intercesseurs dans les mariages, alors que le mariage est un lieu d'action de grâce. Mais quand vous avez fabriqué votre propre mariage, vous faites l'autel d'intercession. C'est votre affaire, parce qu'il y a eu la pression. quelqu'un vient nous prendre. Il dit, écoute, nous entendons, tu prêches bien. Et nous avons, mon épouse travaille à un endroit, il travaille à une pompe funèbre. Nous avons demandé au patron, il a dit que le sous-sol est bien, tu peux commencer l'église. Nous, on va juste, nous sommes un groupe de Québécois, assurer ton loyer et te donner un peu de quoi vivre. Qu'est-ce que c'est beau, ça? Qu'est-ce que c'est beau? Comme promesse, je n'ai rien. Nous revenons dans la prière. On dit, ma promesse n'est pas là. Je vais voir celui qui m'a promis. Il m'a traité de fou. Il m'a dit, rentre dans ton pays. Tu ne comprends rien. Ici, tu es au Québec. Ici, tu es au Québec. Un ami, nous sommes restés en froid avec lui assez longtemps. Mais quand il a vu ce qui est venu par la suite, il est venu me demander pardon. Il m'a demandé, mais comment tu écoutes Dieu? On ne colle pas la promesse de Dieu sur tous les cartons. On ne colle pas la promesse de Dieu sur tous les cartons, emballage, promesse. Non, la promesse de Dieu est sacrée. La promesse de Dieu est sacrée. La promesse de Dieu est sacrée. Avant de la coller, écoutez bien Dieu. Parmi ceux qui étaient dans cette réunion, qui me proposaient l'église, je peux vous tendre des lettres de demande qu'il m'adresse. Je vais vous les tendre. Il me dit, nous n'avons pas compris comment tu avais compris, toi, Dieu. Mais comment tu pouvais s'y attendre? À la promesse de Dieu est liée la patience. À la promesse de Dieu est liée la patience. Tout ce que tu vis comme pression, Dieu contrôle. Tout ce que tu vis comme tempête, Dieu contrôle. Deuxième ennemi de la promesse s'appelle l'incrédulité. L'incrédulité à une promesse, elle naît toujours par le regard que nous avons ou le raisonnement sur la promesse. Lorsque Dieu vient, il trouve un petit gamin, comme Joseph, il lui dit, tu seras premier ministre d'Égypte. Le gamin, lui, son père dit, mais nous sommes immigrants, nous n'avons même pas les papiers dans le pays. Le Seigneur, Israël est à l'époque du roi Joram. Il y a famine en Israël depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Pas de nourriture. Pas de pluie. Rien. Dieu envoie le prophète Élisée. Élisée dit à la maison, au palais royal, préparez-vous demain, il y aura la nourriture. L'aumônier ou l'étendant de la maison du roi sort. Dit, même si Dieu faisait une fenêtre au ciel. 2 Rois chapitre 7. D'où viendra la nourriture? D'où? Mais arrête des choses comme ça. Il regarde la réalité et la promesse, il n'y a pas de rapport. Je voudrais te dire que les réalités de ta vie et la promesse n'ont rien de commun. La promesse est une révélation et c'est le regard de Dieu sur ta vie. Élisée va lui dire, il y aura la nourriture demain, mais toi, tu n'en bénéficieras pas. Tu vas mourir. Le lendemain, Dieu est maître des scénarios. Il va juste secouer la terre. Les Samaritains, les Assyriens qui étaient, les Syriens qui étaient autour de la ville, ils s'enfuient. Et puis, Dieu va pousser. Vous savez que Dieu peut pousser quelqu'un dans tes bras, dans ta maison. Et puis, il pousse ces gens. Les gens vont partir. Les lépreux vont partir. Ils trouvent que le camp est libre. Ils rentrent à la maison du roi. Il y a la bouffe. Ils disent, ah, Dieu avait dit. Et ce qu'il a dit s'est accompli. Et en dernier lieu, le dernier ennemi s'appelle l'infidélité. Vous comprenez que Dieu s'appelle le fidèle et le fidèle ne travaille pas dans l'infidélité. Quand tu quittes l'alliance, tu compromets les projets de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu attend de toi, que tu restes fidèle, attaché à lui, malgré le temps, malgré les circonstances que tu vis. J'ai fini ce matin cette pensée de Dieu qui sera l'objet de toute une série de messages dans des semaines qui viennent quand je reviens d'Israël. Je voudrais te rappeler que Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Tu as la promesse, tu as aussi les serments de Dieu. Dieu accomplira ce que sa bouche a dit. Il n'y a rien de plus grand que Dieu ne puisse pas accomplir. Parfois, la promesse que tu as reçue te semble lointaine, irréalisable du point de vue humain. Mais Dieu la réalisera. Dieu réalisera. Dieu réalisera. Dieu réalisera. Il y a 5 ans, je suis en Corée. Je suis en train de terminer dans les minutes qui viennent mon séjour à la montagne de prière. Je donne les clés de la chambre, je donne les clés de ma cotte de prière. Il y a quelqu'un qui me dit, viens. Un homme tout mince me dit, viens. Il me tire. Il me parle un anglais un peu bizarre. Il me dit que Dieu me dit, il y aura des groupes d'églises qui vont se mettre sous ton leadership. Il dit, tu dis pendant que tu priais. Il me dit les mots, mot à mot, ce que je disais dans ma prière. Tu penses que tu es petit. Il m'amène vers un arbre. Il dit, tu vois ça, c'était une graine qu'on a déposée dans le sol, mais la science de Dieu fait qu'elle s'est développée. Il y a deux mois derrière que nous travaillons sur un mouvement, 54 églises, 65 pasteurs. Je n'ai pas fait de démarches. Nous nous mettons sous ton leadership. Voici celui qui a rédigé le texte d'adhésion. Voici qui a rédigé le texte d'adhésion. La parole qui m'a été donnée en Corée. Quand j'ai eu la parole, immédiatement je rentre à la cabine, je l'appelle, elle dormait, je la réveille. Je dis, voici ce que je viens d'entendre. J'avais des larmes qui coulaient. Parfois, ce que Dieu dit. La semaine dernière, j'ai envoyé 3 missionnaires en Afrique. 2 Belges, 1 Québécois. Ils viennent de tenir des grandes conférences dans un pays d'Afrique. Ils sont revenus là, j'attends un rapport. La semaine dernière, j'étais avec Antoine Amico. Nous avons cédulé pour l'envoyer à l'Afrique. Pendant des jours, le 8 et le 9 décembre, il travaille comme missionnaire de la CEP en Centrafrique. Pendant la fin des semaines, il revient, il ne revient même pas, il continue jusqu'à Tananarive. Nous tendons les bras, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles avec nous, sans argent, sans rien, amen. Frères et sœurs, je voudrais vous demander de changer votre image de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas ton père ou mon père qui a échoué dans certaines choses. Dieu a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Dieu a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Dieu a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Voici le Dieu que nous servons. Voici le Dieu que nous adorons. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Merci, merci. Je vais prier. Prier pour ceux qui ont des promesses, qui commencent à remettre des promesses en cause. Ceux qui ont des promesses, mais qui sont fatigués d'attendre. Ceux qui ont des promesses, mais qui se retrouvent avec des tentations de fabriquer des Ismaël dans leur vie. Juste rester debout et on va prier ensemble. Vous avez besoin d'une confirmation que vous avez la promesse de Dieu. Et Dieu peut utiliser quelqu'un aujourd'hui, demain, cette semaine, pour rappeler cette promesse que tu as reçue de Dieu. Alors que nous avons les yeux baissés, vous avez une promesse, murmurez-la au fond de votre cœur. Murmurez-la.
« Ta fidélité.
Dieu est fidèle.
Incontournable.
Murmurez la promesse. Murmurez-la. Même si vous ne chantez pas.
Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi. Jésus béni. Compte ta fidélité.
Notre Dieu, notre Père, voici mon frère, ma sœur, qui a reçu de ta bouche une promesse avec un serment. Mais regarde combien le chemin est long et dur, combien d'épreuves il traverse. Il est incapable, Seigneur, de tenir encore devant toi. Mais je t'invoque, j'appelle la grâce sur sa vie de renouvellement spirituel. Augmente sa foi de marcher et de tenir encore ferme pour voir ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir 2-3 minutes. On termine.